RMC.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barca.
Le Super Football Show.
Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belanda. Donc, on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Je vous fais le pari qui sera rarement même dans les 18.
Nicolas Villas.
Nous sommes ensemble pendant une heure, nous sommes ensemble jusqu'à minuit et vous êtes dans l'after avec Ali Benarabia. Bonsoir Ali.
Bonsoir Nicolas.
Avec Jonathan Macardy. Bonsoir Jonathan Macardy.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Ali.
Ça va les mecs, tout va bien?
Ça va.
C'est vrai?
Bah ouais, ça va.
Écoute, ça va aussi.
Pourquoi pour,
ça
irait pas
Montpellier? Bah,
je sais. Il y a la Coupe du Monde qui arrive.
Il y a Montpellier qui s'est qualifié tout à l'heure pour la finale du top 14. Victoire 40-14 face au Loup. Voilà Montpellier qui jouera une première finale de top 14 pour la première fois depuis 2011.
Ça sonne la victoire des Montpellier cette année.
Ouais, tu penses? Alors le demi-finale c'est demain, 16h45 entre le Racing 92 et Castres.
Ouais, donc moi je pense que cette année c'est
Montpellier. Ils ont terminé premier. Hein,
non, ils ont été constants toute la saison.
Ouais. Donc ton favori c'est Montpellier.
Montpellier.
Voilà, spécialiste de rugby, d'être
oui, complètement.
Complètement du côté Marty de Narbonne.
Non, de Narbonne.
Je suis coiffé d'Aïkolo.
Tu roules les airs, Narbonne.
Et sachez également qu'il y avait un match amical, l'équipe de France Espoir qui s'est inclinée dans un match amical face à la Suisse de Buzyn. L'information de la soirée, elle vient de tomber, messieurs. Le procureur du ministère public de la Confédération helvétique, de la Confédération suisse justement, a envoyé un courrier qui est daté du 24 mai dernier à l'ex-patron de l'UEFA, Michel Platini. Dans cette lettre, le parquet suisse blanchit officiellement Michel Platini, c'est une information du Monde, hein, dans le cadre de la procédure pénale ouverte en septembre 2015 contre l'ex-boss de la FIFA, Sepp Blatter. Alors c'était pour un paiement, prétendu, je cite, déloyal de 2 millions de francs suisses, ce qui fait un peu moins de 2 millions d'euros, qu'il avait fait aux Français. C'était en février 2011, et là je cite encore, sous prétexte de rémunération en tant que conseiller spécial entre 1998 et 2002. Alors l'avocat de Michel Platini qui explique au Monde que Platini est clairement innocenté. On rappelle qu'en janvier 2016, Michel Platini avait dû renoncer à être candidat à la présidence de la FIFA, puisqu'il avait été suspendu par la commission d'éthique de la même FIFA. La décision du MPC, du ministère public de la Confédération helvétique, peut-il conduire la FIFA à lever la suspension de Platini banni jusqu'en octobre 2019? Réponse de maître Solari, l'avocat de Michel Platini, cette décision devrait avoir un impact si la FIFA se comportait de manière loyale. La FIFA a instrumentalisé cette mise en cause au pénal de 2015 pour ouvrir la procédure disciplinaire. En gros, il y a des élections à la FIFA l'année prochaine. Michel Platini, bah, il est toujours suspendu.
Oui, bah oui, c'est une judiciaire. Il n'y a pas une retranscription pure et simple d'une décision de justice à ce que la FIFA a décidé. Donc au final, pour l'instant, ça ne nous apprend pas grand-chose, si ce n'est une bonne nouvelle pour lui, quoi.
Alors cela dit, il y a un congrès de la FIFA qui est prévu le 5 juin prochain à Paris. Alors c'est 4 mois avant la suspension, il y a peut-être une décision qui pourrait tomber à ce moment-là également. Ils ont pas mal d'espoir du camp dans le camp de Michel Platini.
Il peut compter sur les soutiens qu'il a en interne, notamment des petits pays. Mais il faut que ça vienne, il faut qu'il y ait un mouvement interne et qu'il y ait une sorte de pression de la part des membres pour, de manière à ce que sa sanction soit levée. Mais pour l'instant, qu'il soit blanchi par la justice, ça veut, ouais, c'est un signe d'espoir, mais ça veut rien dire.
Ça veut quand même dire beaucoup.
Par rapport à cette suspension par la FIFA, c'est un signe d'espoir pour lui. Si son ambition c'est de pouvoir être réduit à la FIFA.
Non mais de toute façon, même sans ses ambitions, ce qu'il voulait déjà c'est être blanchi et dire je n'ai rien fait.
Oui, bien sûr. Mais ça, on le savait plus ou moins.
Non, mais même si on le savait plus ou moins.
Ouais, enfin c'est important. Même
c'est
si
très important.
Que toi tu le saches, mais que tu sois condamné.
Ce que je veux dire, c'est que par rapport aux preuves dont nous avions connaissance, que la justice le blanchisse, c'est tout à fait logique.
Non mais par contre, ce qui est illogique, c'est que, enfin, moi, j'arrive plus à comprendre. Tu as des personnes comme Michel Platini, tu as Mamadou Sakho au niveau du dopage, et ils sont blanchis alors que ça lui a tout cassé à Mamadou Sakho.
C'est vrai.
Sa présence au club de Liverpool et la Coupe du Monde et l'Euro. Et pareil pour Michel Platini. Au moment où vraiment il se présentait pour passer le cap, alors lui qui attendait chaque fois un petit peu que Sepp Blatter laisse sa place, au moment où il pouvait et qu'il avait pris la décision, d'un coup, tout s'est écroulé. Et on voit encore que Michel Platini est blanchi. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre ça, qu'on puisse juger une personne alors qu'on ne sait toujours pas encore si elle est coupable ou pas.
Tiens, on est avec François Malardeau qui est en direct avec nous. Salut François.
Ça me fait drôle de pas avoir Ola Villa.
T'es sûr que t'es pas derrière nous,
oui, bah François,
t'es
voilà.
T'es sûr qu'il est pas derrière nous.
Je le vois pas. Nicolas,
bien,
pour être son Ola Villa, ça me manque. Ouais.
Salut François.
Salut François, t'es pas sur le plateau là.
Ciao.
Alors François, toi, tu connais bien Michel Platini également. T'as eu des échos ou pas de sa part, de la part de ses proches également?
Oui, j'ai eu il y a une heure là au téléphone et évidemment. c'est une victoire très importante pour lui parce que c'est la victoire de la justice de dans ce pays où le mal a été fait. Et voilà, il a gagné en quelque sorte un match très important, mais qui ressemble à un premier match dans un tournoi, parce qu'il va y en avoir d'autres maintenant.
C'est-à-dire ?
Bah, c'est-à-dire qu'il va pas en rester là. Il a déposé un recours auprès de la Cour des droits de l'homme européenne à Strasbourg, et il entend à ce que ce recours, qui a été déposé il y a quelques mois, et grâce à la décision officielle de la justice suisse, eh bien que tout ça fasse pression par rapport à la justice, entre guillemets, hein, évidemment justice, parce justice du tribunal arbitral du sport, mais surtout celle de la commission d'éthique de la FIFA, ce sont des justices en quelque sorte privées. Il faut savoir quand même que le TAS...
On est d'accord, hein, François, pour être très précis.
Il y a du CIO, genre de choses.
Il n'y a pas d'incidence sur la suspension qui a été rendue effective par la FIFA. Pour l'instant, elle est toujours suspendue jusqu'à octobre 2019.
Au mieux, François, en fait, ce qui se passe, c'est que ça lui donne un moyen de pression, de manière à faire pression justement sur la commission de la FIFA qui l'a suspendue, mais c'est rien de plus.
C'est déjà beaucoup, parce que c'est un moyen de pression. Quand c'est la justice officielle, c'est comme si c'était le ministère de la justice en France qui déjugeait une décision d'une commission de discipline de la fédération.
Mais qui n'est pas obligé de la retranscrire.
Alors, ce qu'ils vont faire, c'est comme il y a ce recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est que normalement, dans un pays de droit tel que l'est la Suisse, vous devez en toute logique suivre une décision qui sursoit à la vôtre. Quand je dis la vôtre, c'est celle de la commission d'éthique dans un premier temps, et puis celle du tribunal arbitral du sport. Sinon, la théorie du complot va prendre de plus en plus d'épaisseur jusqu'à ce qu'elle explose à la face de tout le monde, en tout cas tous ceux qui voudront bien gratter le vernis et regarder les choses telles qu'elles sont.
Ouais, il y a ce fameux congrès de la FIFA qui sera au mois de juin 2019.
Il y aura à Paris.
Ouais, exactement. Alors, qui sera 4 mois justement avant normalement la fin de la suspension de Michel Platini. Il y a des élections à la FIFA en plus l'année prochaine. C'est important ça aussi du coup.
Ben oui, c'est très important parce que quand je parle d'un match gagné, maintenant il faut passer à autre chose. C'est que Michel Platini a dit ce soir dans un entretien qu'il a délivré en France, c'est que il est très rancunier, mais pas revanchard. Mais là, pour le coup, il est pas du tout rancunier et très revanchard. C'est-à-dire qu'il entend son honneur est blanchi maintenant, et maintenant il entend renvoyer l'ascenseur. Donc c'est quelque chose. Alors peut-être qu'avec la Coupe du Monde, on aura une espèce de trêve des confiseurs en quelque sorte, mais si c'est pas juste après la Coupe du Monde, ce sera à la rentrée où il pourrait peut-être y avoir quelques effets d'annonce assez consistants du côté de Michel Platini pour dévoiler quelles sont ses ambitions au niveau du football, parce qu'il n'a pas oublié ce qui s'est passé en 2015, il n'a pas oublié son envie d'être président de la FIFA, et il n'a surtout pas oublié le coup que certaines personnes qu'on peut compter, je dirais, sur les doigts d'une main, et encore, lui ont le vilain tour qu'elles lui ont joué, donc il va pas en rester là. Et ceux qui le connaissent savent bien que dans ces cas-là, il n'a pas le pardon facile.
Et toi qui le connais bien, tu penses qu'il sera candidat s'il le peut en 2019 ou pas? Est-ce que c'est le but là à travers tout ça maintenant? Là, il a été blanchi, c'était important, tu l'as dit, d'un point de vue très personnel, pour son image, pour un sentiment de justice tout simplement. Mais est-ce que tu penses que maintenant il a envie d'être candidat à la FIFA justement, puisqu'on lui a enlevé finalement ce bonbon de la bouche il y a 3 ans?
Je pense que en se rasant le matin, il doit y penser pas mal, ouais, allez.
Bien sûr.
Et qu'il se rase beaucoup alors.
Il se rase beaucoup?
Qui se rase beaucoup?
Oui, il se rase beaucoup. Ouais.
Qui se rase?
Moi, je me rase
beaucoup. Non, c'est pas ça.
On a vu d'ailleurs un tweet. Il va y penser. C'est quelque chose. Tu sais, quand on te fait tomber pour quelque chose que tu n'as pas commis, parce que il se serait pas battu comme il s'est battu, il n'aurait pas eu la confiance qu'il a eue dans la justice suisse. Encore une fois, quand je parle de justice suisse, c'est pas la justice privée, c'est la justice,
non, c'est la justice d'État,
de la Confédération helvétique. Voilà, il aurait lâché l'affaire. Bon, désolé, j'ai déconné. Au revoir et merci. Vous n'entendrez plus parler de moi à part sur les terrains de golf. Donc là, ça n'a pas été le cas. Ça a été un long combat qui date de 3 ans, qui a commencé en 2015. Voilà, il y a un premier round de gagné, et puis maintenant, je pense très certainement, je peux pas parler pour lui, mais je le connais un petit peu et je pense qu'il va, il va voir les choses différemment. Donc quand tu parles de sentiment de revanche, ouais, tu brûles.
Et tu sais ce qu'il a fait pendant 3 ans du coup, pas François?
Bah il a pas travaillé.
Mais c'est vrai, mais avait pas le non droit. Mais il s'est surtout battu.
Il s'est beaucoup battu effectivement, Ali, en épuisant d'abord beaucoup de recours dans cette justice du sport dans laquelle il avait confiance et qui l'a terriblement déçu. Et puis ensuite, il a fallu déplacer le combat auprès du ministère public et sortir de la Confédération helvétique pour aller auprès de la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg pour porter ce combat à une autre échelle encore, parce que il s'était rangé à l'avis que en Suisse, avec la commission d'éthique de la FIFA et puis avec le tribunal arbitral du sport, il ne pourrait pas avoir gain de cause. Donc il est allé défendre son innocence sur un autre terrain. Et aujourd'hui, je vois pas, si vous avez une meilleure idée que moi, dites-le nous, hein, mais je vois pas qui mieux que la justice suisse, ce qu'a dit le procureur finalement dans sa décision qui date de mardi et qui a été officialisée aujourd'hui, c'est qu'il y a aucun chef d'inculpation, il n'y a rien à retenir contre lui. Il n'y a rien à en dire, quoi. Circuler, il n'y a rien à voir. Il avait été entendu en tant que témoin assisté, d'accord, mais témoin dans une affaire en 2015, sur laquelle, en revanche, le président, l'ex-président de la FIFA, lui, était prévenu. Oui. C'est pas la même chose. Témoin, prévenu, même si vous n'avez pas fait de droit, comme beaucoup d'entre nous, témoin et prévenu, c'est pas la même mayonnaise.
Ouais, on a vu un tweet, un défilé aussi, hein, du fils de Michel Platini, Laurent Platini, alors qui reprend l'article du Monde.
Qui est juriste de formation.
Voilà. Et qui rajoute le petit commentaire, enfin, avec un point d'exclamation.
Ben, évidemment. Parce que pour sa famille, ça n'a pas été une sinecure. Ouais,
merci François d'avoir été avec nous. Merci pour tous ces
éclaircissements.
À très bientôt.
Amusez-vous bien.
Merci, salut, ciao. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà. On vous rappelle Michel Platini, donc, qui est blanchi par la justice suisse, hein, après cette fameuse affaire, qui lui vaut toujours d'être suspendue par la FIFA. On le rappelle, elle est toujours suspendue par la FIFA. C'est la justice d'État qui l'a blanchi, mais pas encore la justice du foot. On est à 20 jours, messieurs, du début de la Coupe du Monde, début de la Coupe du Monde en Russie, qui sera à suivre, bien entendu, sur RMC.
Ça fait long.
Lundi, il y a un match de préparation.
Les gens, ça fait long quand on attend cette Coupe du Monde depuis un certain temps.
On attend depuis longtemps.
Ça commence à être long, là.
Oui, mais là, 20 jours, ça fait long.
L'excitation, elle monte, là.
C'est vrai.
Il y a les listes, on connaît qui va partir.
Et on sait aussi qui n'y va pas. Et on sait aussi qui fait la gueule parce qu'il n'y va pas. Adrien Rabiot, alors qui a décliné son statut de suppléant à Riageux aujourd'hui dans une lettre ouverte. Alors une lettre ouverte qui a été diffusée dans plusieurs
médias.
Elle
est magnifique.
Je vais vous lire quelques extraits. Je me doutais du ressentiment qu'aurait ma décision, mais je déplore d'être caricaturé.
Il y a pas des violons là.
Comme un jeune joueur immature, incapable de mesurer la portée de ses actes. Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté, dit-il plus loin. Ou encore, je n'autorise personne à parler en mon nom de ma relation avec l'équipe de France. Et là, il déclare, si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années, le message était clair, ce sont les performances qui ouvrent les portes de l'équipe de France. Plus loin, il explique, je suis un compétiteur sans état d'âme, mais je suis aussi un homme, et à ce titre, j'aurais aimé être considéré comme tel. Et il termine en disant, j'assume et j'assumerai toutes les conséquences de mon choix avec le soutien de ma famille et de mes proches. Vous avez pensé quoi de cette lettre, messieurs?
Ridicule autant, tu sais, quand il a envoyé, on a eu vent de ce premier courriel qu'il a envoyé à Didier Deschamps pour lui dire qu'il ne voulait pas se tenir prêt à être réserviste. À la rigueur, moi, qu'est-ce que je pensais? Je me dis, bon, bah, écoute, il fait ce qu'il veut, en fait, au final. Un mec qui a pas envie de venir parce qu'il est vexé, peu importe, pour je ne sais quelle raison, s'il ne veut pas venir, eh ben, encore mieux, heureusement qu'il le dit, parce que je préfère, admettons qu'il y ait un pépin, je préfère, tu vois, prendre un mec qui sera motivé et qui se sera préparé correctement. Alors, et puis après tout.
Petite parenthèse, parce qu'on parlait un peu de pénal aussi, tu sais que normalement, t'as pas le droit de refuser
non,
une sélection.
Mais la lettre est tellement bien rédigée.
Non mais le mail est bien rédigé. Non parce que c'est pas question qui c'est bien qu'ils disent qu'il y va pas, c'est qu'il se
dit. Il a pas dit qu'il y allait pas. Non, il a dit qu'il n'était pas, qu'il ne se sentait justement pas en mesure de se préparer.
Mais c'est au cas où, tu vois. Pour éviter une sanction prévue.
Voilà. Non mais bon, dans le fond l'intention on la connaît. Bref, moi je veux dire, quand j'ai vu ce premier refus, je me suis dit, bon après tout il fait ce qu'il veut. Moi je trouve ça bête parce que je trouve ça beau de pouvoir défendre son pays, je trouve ça beau de pouvoir s'engager pour son pays, défendre les couleurs de sa patrie. Mais bon, s'il veut pas, il veut pas. En revanche là, la seconde lettre. La deuxième lame qu'il envoie, mais c'est pathétique. Alors d'une part, c'est très mal écrit, les mots choisis sont maladroits, et surtout l'argument du sportif, eh ben je suis désolé, si on s'en tient juste à ça, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, parce que sportivement, quand on regarde d'une part les noms qui ont été sélectionnés à sa place, Nzonzi, je suis désolé, il fait une meilleure saison que lui, au poste de numéro 6. Rabiot, il a pas été très bon sur la fin de saison. Il s'est loupé sur plusieurs matchs, il a été irrégulier. Dieu sait à quel point j'aime ce joueur, à quel point je pense qu'il a le potentiel de devenir un des meilleurs numéro 6 au monde. Mais quand tu regardes la fin de sa saison, non, je suis désolé, moi je prends Zonzi 10 000 fois si tu t'en tiens juste aux performances. Tolisso, bah ça peut être un concurrent aussi si on le met un peu plus haut sur le terrain. Tolisso en bleu, il a été très bon. Adrien, il a jamais été très bon en équipe de France. Il a jamais sorti de prestations éblouissantes.
Non, mais c'est parce qu'il,
non, mais parce que dans sa lettre, il dit, c'est le sportif qui doit décider ou pas de la sélection. Eh ben, sur le plan sportif, il ne mérite pas, relativement à ses petits camarades, d'aller en sélection. Et dernière chose, avant de te laisser la parole, Ali, moi, je me mets à la place des milieux de terrain qui ont été sélectionnés en équipe de France. Tu penses qu'ils sont, qu'ils pensent quoi? Tu penses qu'il pense quoi quand il dit que sportivement, lui, il méritait, donc ça veut dire quoi? Ça inclut quoi? Qu'il y en a un d'entre eux qui ne mérite pas?
Ali, comment t'as réagi, toi, à cette lettre?
Sa lettre n'est pas stupide. La différence, quand tu joues au haut niveau footballeur professionnel, ce n'est pas non plus un métier où il y a... On retrouve souvent la langue de bois, c'est-à-dire tu ne peux pas dire tout le temps ce qui est juste. Le sélectionneur, ou voire l'entraîneur, ne fait pas toujours ce qui est juste. Et là-dedans, la position, ce qu'il dit, dans le fond, c'est vrai. Mais par contre, c'est des choses qui ne se disent pas quand tu veux faire carrière dans le football.
Pourquoi parce que c'est vrai, tu te penses que sportivement est mérité, comme
non,
il le dit.
Non, pas du tout. On parle.
Mais c'est ce qu'il dit.
C'est
hein.
Quand il parle pas personnellement de lui. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué cette année.
Alors Ali, regarde, juste un truc.
Non, mais attends, je finis. Il y a des joueurs qui n'ont pas joué comme Mendy. Je parle pas de Rabiot personnellement.
Ouais.
Il parle de critères. Un joueur qui ne joue pas comme Mendy, normalement. Mais alors que j'adore ce joueur.
Ali, là, tu fais fausse route parce que on parle de concurrence, en l'occurrence. Et Benjamin Mendy n'a pas le même poste. Donc quand tu regardes le vivier de joueurs à ce poste-là, je suis désolé, il ne mérite pas.
On parle de critères.
Mais les critères sont relatifs.
Non plus.
Sont relatifs aux critères d'autres.
Mais vas-y, qu'est-ce que tu veux dire?
On en revient à une chose. Simplement que ce n'est pas une question de critères. L'équipe de France ou les équipes nationales. C'est simplement le choix du sélectionneur.
Non, mais justement, Ali, c'est là où son argument est pas. Alors, là,
le choix du sélectionneur.
Attends, là où je vais rejoindre Jonathan, je t'explique. Moi, la phrase qui m'interpelle dans cette lettre, c'est celle où il dit, si j'ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c'est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive, car depuis toutes ces années, le message était clair, ce sont les performances qui ouvrent les portes de l'équipe de France. D'une, Didier Deschamps a répondu à ça lorsqu'il a donné sa liste en disant « Les performances d'Adrien en équipe de France ne sont pas du tout les mêmes qu'avec le niveau du PSG. » Et surtout, Didier Deschamps l'a expliqué quand il a donné sa liste. Mais il l'avait déjà fait en 2016 et il l'avait déjà fait en 2014. Il avait dit « Le critère, c'est pas le sportif. Moi, je sélectionne des mecs pour être dans un groupe. » Donc l'argument de Rabiot, oui. c'est le sportif. Deschamps arrête pas de dire ça depuis des années. Bah non, il dit pas ça depuis des années.
Le problème, c'est que la plupart de ces joueurs-là ne font pas la différence déjà entre leur niveau en équipe de France et leur niveau en club.
Ouais.
Sous prétexte que...
Ouais, parce que lui sort ses stats en club aussi.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
Tu peux avoir des joueurs qui sont très moyens en club. On en avait, je prenais l'exemple...
Giroud, quand il était dans le trou, par exemple.
Je parle pas de Giroud. Jean-Philippe Durand à l'OM, qui était remplaçant et qui était titulaire en équipe de France.
Ouais. Mais...
Non, pour en revenir à Rabiot, sous prétexte. Et la plupart des joueurs, je vois qu'il y a Mbappé, qui joue au PSG avec cette mentalité de joueur star du PSG qui domine la Ligue 1 et qui veulent se mettre un petit peu au niveau de ces autres stars du PSG style Neymar, Thiago Silva, Alves, en oubliant que eux ne sont pas arrivés à leur niveau avec autant de titres.
Attends, juste, je vais te reprendre sur un truc que t'as dit. T'as dit quelque chose qui est totalement faux. C'est quand t'as parlé des critères, je pense que les fils sont touchés ou quoi, parce que quand tu parles de Benjamin Mendy. Pourquoi tu parles de Benjamin Mendy? Les critères, un critère sportif pour faire une sélection, c'est pas un critère qui est absolu. Je suis tout à fait d'accord avec Nico. Ce sont des critères qui sont relatifs par rapport aux performances des autres joueurs.
C'est Deschamps qui l'a dit.
C'est pas des critères qui sont absolus.
Quelles sont les performances de Mendy cette année?
Mais c'est pas
non, mais réponds-moi.
Il a pas joué, mais alors en fait j'ai entendu, mais t'écoutes pas. Écoute, Ali, écoute, essaie de comprendre ce que je viens de dire. Non, pas du tout. Écoute ce que je viens de dire et tu vas comprendre. Les critères ne sont pas absolus. Ali, les critères ne sont pas absolus, ils sont relatifs comparés à la concurrence. Mais il joue milieu, il joue latéral.
J'étais joueur de foot.
Oui, mais tu comprends pas ce que je te dis alors.
Non, je parle pas de poste.
Bah pourquoi je parle de Mendy?
Non, mais parce que Rabiot se sert de quoi? Il se sert pas de la concurrence du milieu de terrain, parce que normalement, au milieu de terrain, que ça soit Nzonzi ou Rabiot, normalement, ils doivent pas y être en équipe de France. Pourquoi? Nzonzi n'a pratiquement pas joué avec l'équipe de France. Vrai ou faux?
C'est vrai, mais il a fait une meilleure saison.
Attends, mais on parle pas de saison en club. Il le dit, Deschamps. Il a dit, un équipe
moi,
de France.
Moi, je le trouvais bon quand il est rentré. Alors, il a le pote, il a joué en bleu, il a été meilleur que toute la sélection d'Adrien Rabiot.
Un joueur, il peut ne pas jouer du tout, jouer à l'équipe de France et arriver à exploser tout le monde. Et j'en reviens à une chose, c'est que tu prends Lucas Digne, qui est là depuis longtemps à l'équipe de France, qui est présent et tout, et qui disparaît en moins de 2 secondes, alors que Lucas Hernandez a joué et récemment, et Benjamin Mendy.
Le critère, c'est quoi? Pourquoi il prend Lucas Hernandez?
Mais moi,
parce qu'il a d'une part parce qu'il a plus de rythme, et d'autre part parce qu'il est polyvalent, ça peut se comprendre.
Non, c'est même pas ça pour
lui. Mais pour la vie
mais
du groupe,
non.
Aussi.
Mais c'est pas
non,
que
mais
ça.
Je pense pas que Digne, ça soit. Je pense que Digne, c'est pas un problème pour la vie du groupe. Non, mais Lucas Hernandez, il est polyvalent. Le sélectionneur a ses critères, il faut le respecter.
C'est tout. C'est quoi, tu dis?
Parce que pour Deschamps, Lucas Hernandez et Benjamin Mendy sont 10 fois meilleurs que Digne. C'est pas compliqué.
Tiens, juste, je vous lis.
Mais quand il parle de groupe et depuis longtemps, Lucas Digne, ça fait longtemps qu'il est là, qu'il attend.
Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je vous lis. Après la lettre de Rabiot.
Et c'est le problème. C'est parce que Rabiot n'a jamais été bon en équipe de France.
Jamais.
Après la lettre de Rabiot, il y a une réaction quand même du Paris Saint-Germain qui a balancé un communiqué de presse. Alors, vous savez, Paris United avait expliqué il y a 2 jours que Rabiot devait voir Tourelle, que finalement le rendez-vous avait été repoussé parce qu'il voulait plus penser au football, qu'il avait réclamé même une réaction de la part de ses dirigeants. Il y a un communiqué de presse. Alors, c'est un robinet d'eau tiède, hein. Le club tient à souligner le lien particulier qu'il nourrit avec un joueur arrivé au centre de formation en 2010 et qui a ensuite gravi avec talent et caractère tous les échelons jusqu'à devenir un élément majeur de notre effectif professionnel. Et un peu plus loin, le communiqué explique le Paris Saint-Germain ne souhaite pas interférer dans un dossier qui concerne avant tout un joueur et la sélection à laquelle il est rattaché. Voilà, ils défendent le joueur, mais pas trop quand même.
Après,
ils veulent se brouiller avec
Attends, Nicolas, tu sais, par rapport à ce que Ali, mais même je pense qu'Adrien Rabiot, lui non plus, c'est pas un problème pour la vie du groupe. D'après les échos qu'on en a, c'est quelqu'un qui s'entend bien avec tout le monde. Il est le meilleur ami de Benjamin Mendy. C'est un mec qui. C'est pas un problème pour le groupe. Je pense que ce qu'il paye surtout, outre ses performances sportives du moment qui sont pas bonnes et outre ses performances en bleu qui ont jamais été bonnes, je pense que c'est sa décla là. Quand il dit qu'il faisait trop voix pour jouer, la nonchalance qu'il a montré, c'est son attitude vis-à-vis du sélectionneur et peut-être pas forcément envers le groupe. Ce qui mais c'est aussi
non,
grave.
Non, vis-à-vis surtout du sélectionneur.
On va accueillir Damien.
Pourquoi tu dis non, c'est ce que je viens de dire.
On va accueillir Damien dans quelques instants qui nous a appelé au 32-16. Si vous voulez réagir à cette lettre ouverte d'Adrien Rabiot, on vous attend au 32-16. Ne parlez pas en même temps qu'à la radio. Et sur le hashtag RMC Live, bien entendu, on écoutera Steve Mandanda aussi, qui s'exprimait en conf de presse, mais c'était juste avant que la lettre soit publiée par Adrien Rabiot également. Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC, le Super Football Show, l'Afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benardia, avec Jonathan McCardy, avec vous également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Je vous rappelle l'information qui vient de tomber il y a quelques minutes. Michel Platini, blanchi par la justice suisse, lui qui était suspendu 4 ans par la FIFA, eh bien a été innocenté par le parquet suisse dans l'affaire du versement des fameux 2 millions de francs suisses, selon des documents qui ont été publiés et consultés par Le Monde. Il vient de réagir d'ailleurs sur le site du Monde, sur lemonde.fr, Michel Platini, et il déclare « J'espère que la FIFA lèvera ma suspension ». On vous rappelle que c'est une décision de justice civile, entre guillemets, et que du coup il est toujours suspendu par la FIFA jusqu'à octobre 2019. Il y a des élections à la FIFA en 2019 également.
Voter Platini.
Voilà, il déclare, c'est bien sûr un soulagement, mais je connaissais bien la fin de l'histoire. Il était convaincu d'être blanchi, Michel Platini. Bon, et il est bel et bien blanchi. On était en train d'évoquer la fameuse lettre d'Adrien Rabiot, on le rappelle, qui a refusé son statut de suppléant. Il a publié aujourd'hui une lettre ouverte. Vous avez été très réactif également, sur le hashtag RMC Live bien sûr. Et visiblement, vous avez été certain et bien à noter que Aymeric Laporte, alors qui a pas été appelé non plus par Didier Deschamps dans le groupe des 23, a réagi sur les réseaux sociaux, sur Insta d'ailleurs. Il a repris cette lettre et il a mis des applaudissements.
Il a été sur le profil d'Adrien Rabiot. Il a répondu en commentaire une salve d'applaudissements.
Voilà cette lettre d'Adrien Rabiot. Voilà.
Et il y a un truc dont on parlait pendant la pub là. En fait, si on voit, on se projette un petit peu sur le court terme, c'est l'avenir d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain qui est non pas remis en question parce qu'on voit que même si c'est mollement le club le soutient, mais moi c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, footballistiquement, je trouve que c'est vraiment un super joueur. Mais quand je pense à lui, à sa carrière sur le court terme, est-ce que vraiment vous pensez que c'est une bonne idée pour lui maintenant de rester en France? Alors oui, Ali, comme tu me disais pendant la pub, si l'équipe de France ça se passe très très mal, que ça se fait sortir au premier tour, que ça part en vrille, effectivement ça limitera la casse pour lui. Mais si l'équipe de France fait ne serait-ce qu'un parcours moyen, je suis même sûr que il va se faire siffler sur tous les terrains tous les week-ends.
Ouais, ça c'est un truc qui risque.
Il va avoir un contexte médiatique qui va être absolument étouffant autour de lui et ça va être invivable. Il faut qu'il parte maintenant.
Même quoi qu'il se passe, tous les supporters de l'équipe de France dans le championnat de France
pour son bien
vont le siffler maintenant. On ne sait pas ce que ça se ce qu'il a dit là, comment ça va se retourner au niveau un petit peu du public, hein. La presse, on entend la presse qui est pas
mais le contexte médiatique va être étouffant.
PSG. Ah, ça a dû les saouler, je te le dis.
Tu penses qu'ils auraient dû faire un communiqué, tu sais Nico?
Non, mais tu sais pourquoi c'est pas obligé, mais tu le sens que c'est un robinet d'eau tiède, ils le défendent pas mais vraiment, tu sais mais ça doit les gonfler quand même. Tu sais en termes d'image, c'est pas top. Hein.
Tu sais pourquoi ça les saoule pas? Parce qu'en interne, ils ont l'habitude. Je crois qu'entre l'Alabama et le joueur, ça se passe pas, ça s'est pas toujours passé comme il fallait. Hein. Ouais. C'est surtout ça. Et là, la preuve, c'est que regarde, il prolonge pas. Pourtant, il est au PSG.
C'est peut-être pour ça que le PSG fait cette lettre, parce qu'il est en fin de contrat l'année prochaine et que c'est dans leur intérêt de se mettre un petit peu dans la poche.
Je pense pas qu'il va prolonger.
On va accueillir Damien qui est supporter du Paris Saint-Germain et qui nous a appelé au 32-16. Salut Damien, merci d'être avec nous.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Ali, bonsoir Jonathan.
Salut Damien.
Bonsoir
Damien
à tous les auditeurs. Écoutez, moi franchement j'ai envie de tomber dessus Adrien Rabiot, mais qu'est-ce qu'il est bête quoi.
C'est surtout ça.
Mais qu'est-ce qu'il est bête?
Qu'est-ce qu'il est mal conseillé plutôt? Ouais, parce c'est pas quelqu'un qui est bête,
c'est les deux.
Non, mais
il est jeune.
C'est tout, mais c'est un tout. Mais
il est jeune et mal conseillé.
À un moment donné, il faut arrêter. Adrien Rabiot, il a quoi? Il a 5 sélections en équipe de France, 6-7, et tout le monde tombe dessus. Il a fait que des bouts de match, comme quoi il a été mauvais. On peut pas juger sur cette sélection. Maintenant, Rabiot, il faut qu'il se réveille un peu. Il a un melon qui est surdimensionné. Le mec, il est surprotégé au PSG. On a viré Matuidi pour garder Rabiot l'année dernière. Je pense que c'était une erreur monumentale du PSG, mais monumentale. Matuidi, on le voit, lui, il est titulaire en équipe de France. Rabiot, c'est quoi? C'est un remplaçant. Et Rabiot, on a voulu le mettre dans le confort, mais Matuidi, lui, c'est un guerrier, il se tape tout le temps, il rechigne pas à faire des efforts, il va pas aller dire qu'il fait froid, il va pas faire des manies pour pas aller jouer en 6. Il joue attaquant gauche, il lui dit arrière gauche. Enfin, c'est à un moment donné, Rabiot, il faut qu'il comprenne qu'il joue dans un sport collectif et pas un sport individuel. Et pour moi, collectivement parlant, Deschamps, il a expliqué ses choix sportivement. Il a dit que Nzonzi, c'était un 6, c'était un remplaçant de N'Golo Kanté. Et ben, Rabiot, t'avais qu'à pas dire en milieu de saison que tu pouvais pas jouer 6. Et quand Deschamps, il t'a fait rentrer en 6 parce que Kanté, il s'est blessé et qu'il pouvait pas faire autrement parce qu'il est avec toi sur le banc, il fallait jouer, il fallait pas faire ta danseuse. Maintenant, il pleure et il peut s'en vouloir que lui-même. Il a pas le droit de dire ce qu'il a dit.
Non, alors Damien, on peut être que d'accord avec ce que tu viens de dire, mais juste je vais insister parce que c'est encore une fois quand on le connaît un tout petit peu ou qu'on a des échos sur sa personnalité, c'est pas quelqu'un qui est bête.
Faut vraiment pas
croire ça. Il est pas bête et il est pas si imbu de sa personne que ce qu'on peut le croire. Le seul problème c'est qu'il est très très mal conseillé et qu'un petit peu à la manière d'un enfant, tu sais, de l'enfant roi, je pense que Nasser Al Khelaïfi a sa part de responsabilité dans le comportement d'Adrien Rabiot et de son clan, qu'il a à chaque fois cédé à toutes les demandes du clan Rabiot et qu'il aurait peut-être fallu un petit peu plus lui taper sur les doigts, parce que c'est pas comme ça, je suis désolé, je veux pas l'infantiliser, mais c'est pas comme ça que tu rends un enfant mature.
Mais Damien, toi qui es supporter du PSG, est-ce que ça te gonfle aussi pour le club? Parce que alors c'est vrai, il lui reste un an de contrat. Alors tu sais pas s'il va prolonger, mais c'est pas bon non plus pour la valeur marchande, par exemple. Un joueur international, c'est plus valorisant, puis un joueur qui fait pas de vagues aussi finalement.
Aussi oui et non, parce que finalement il faut vraiment dissocier le club de l'international, et Rabiot malgré tout il a fait des très bonnes performances cette année. Par contre je pense que c'est dommage, parce que l'année dernière on aurait sûrement vendu 50-60 millions, là il va peut-être descendre à 40-45.
Mais c'est pas dû au bleu hein Damien, c'est juste dû au nombre d'années de contrat.
Ouais, c'est ça, au nom d'un contrat, comme il a pas renouvelé, etc. Voilà, franchement, je pense pas qu'il aurait perdu sa valeur marchande. Et puis, il y a des entraîneurs qui vont aimer ce côté caractériel, un peu, qui se rebelle, etc., qui montre qu'il a un peu de caractère, quand même, Rabiot. Non, je pense pas que ça va forcément nuire à sa carrière. Pour moi, il doit partir du PSG. Ça, c'est une certitude.
Pour son bien.
Pour son bien, oui.
Pour
les deux. Parce que, malgré tout, Rabiot, je pense pas qu'il ait vraiment la mentalité qu'il faut au PSG pour franchir un cap,
un palier. Je te coupe encore, mais je pense même pas que c'est ça. Je pense juste que c'est pas une question de mentalité. Il a besoin de sortir de son cocon en fait. C'est tout ça. Simplement. On a besoin de rompre le cordon ombilical. Il est trop dans le confort à Paris. Il faut qu'il se mette un petit peu en danger.
Puisque vous parlez de ça, il y a une réaction de Cass sur l'hashtag MCLF qui dit: accuser l'entourage de Rabiot ou Nasser n'est pas valide. Il assume. C'est vrai qu'il termine sa lettre en disant ça. Hein. C'est lui qui
a rédigé la lettre. On retrouve exactement.
Non, mais bon.
Au niveau du caractère, on retrouve exactement ce caractère de joueur français qu'il va falloir attendre qu'il parte à l'étranger encore une fois. On l'a tellement vu. Pour se rendre compte de se faire un petit peu écraser, hein, et que à la fin c'est le travail qui compte, c'est ce que tu montres sur le terrain et non pas les paroles. Là, il peut se permettre parce qu'il est au PSG, qu'il est en Ligue 1 et qu'il fait un petit peu ce qu'il veut. Au moment où il va se retrouver en concurrence dans un grand club et tout, style comme dit peut-être Jonathan, il y a des vues de la Juve ou dans un grand club. Là, il va voir la différence.
La Juve, Ancelotti le voit lever à Naples aussi.
Là, il va voir la différence et je pense qu'il se mettra au diapason à tous les niveaux. Quand tu veux faire carrière, c'est exprime-toi surtout sur le terrain et non pas en dehors. C'est ce qui fait les grands joueurs.
Exactement. Et en plus, je pense, c'est un peu, c'est pas paradoxal du tout, mais je pense qu'il a la force de caractère suffisante pour justement tirer très grande partie du fait d'aller à l'étranger, de plus se retrouver dans ce confort-là. Je pense que d'être confronté à de la difficulté, à de la concurrence, à ce qu'on arrête de lui tirer les pompes, ça peut que lui faire du bien.
Parce que là, au milieu de terrain, il avait pas de concurrence.
Parce qu'il était dans le confort absolu.
Aucune concurrence.
Il était dans le confort absolu.
Oh, merci Damien qui nous a appelé, en tout cas. Merci Damien.
Ouais, je voudrais juste rajouter, je trouve très intelligente la réponse du PSG pour une fois. Et je trouve que justement, il le coup vaut pas trop à travers cette réponse.
Merci Damien, en tout cas.
Merci Damien. Salut, ciao, bonne soirée.
On va écouter Steve Mandanda. Alors, il avait réagi, Steve Mandanda, en conférence de presse, mais c'était avant que la lettre, cette lettre ouverte de Rabiot soit publiée. C'est intéressant de voir comment ils réagissent ceux qui ont été convoqués, justement. Écoutez-le, Steve Mandanda.
Pour la plupart, moi y compris, je l'aurais pas fait. Maintenant, Adri est un grand garçon. Il a pris cette décision. C'est un choix qui doit et qui va assumer. Donc voilà, nous aujourd'hui, on se préoccupe que d'une seule chose, c'est de se préparer au mieux pour cette grande compétition. Et puis on ira là-bas avec ceux qui ont envie d'être là avec nous et de faire ce qu'il faut pour aller le plus loin possible.
Ouais, et à noter que Nabil Fekir, qui est passé en conf de presse, il a utilisé quasiment les mêmes éléments de langage. Hein. Ils ont peut-être été briefés. On va accueillir Laurent, qui nous a appelé au 32-16 lui aussi. Salut Laurent.
Bonsoir, comment allez-vous?
Salut Laurent. T'as la pêche Laurent, Eo?
Oh ben moi je suis en pleine forme là.
Ah ça va alors.
Bel orage sur Paris là.
ça va,
je suis électrifié là, tu vois.
En rentrant de l'Arqué là, j'étais en Harley, je me suis pris l'orage, j'ai fait trop d'accidents.
Ouais,
c'était la tempête.
Ouais, c'était bien.
Le mec, tout ça pour dire qu'il roule en Harley.
Pas du tout. Tout le monde le sait. En plus,
c'est
la photo de Bobby Jean plus tard.
C'est connu.
Non, c'est pas ça, c'est pas
une. Alors, Laurent, comment t'as réagi, toi, à cette lettre ouverte d'Adrien Rabiot?
Ouais, moi j'ai réagi. Je pensais justement aux qualités qu'il faut pour être un sportif de très haut niveau, ce qu'aspirent à tous les joueurs évidemment de l'équipe de France. Moi, ça me semble être la lucidité. Et ça, qui permet notamment de se remettre en question. Si t'es pas lucide, c'est dur d'aller au plus haut niveau. Et je pense que Rabiot a manqué de lucidité sur deux points. D'abord, sur ses performances en club, et ensuite, sur sa légitimité, c'est pas facile à dire.
Comment
tu l'as dit?
Légitimité.
Légitimité.
C'est un auditeur du Moscato Show.
sur ses performances en club, il nous dit, bon, il pensait que le critère de sélection, enfin, il pense d'après le sélectionneur qu'il fallait effectivement avoir de très bonnes performances en club, et c'est pour ça qu'il est fâché, parce qu'il estime qu'il a eu de bonnes performances avec le PSG. Il a eu de bonnes performances avec le PSG les deux tiers de la saison jusqu'en février, mais comme le disait justement Jérôme hier, il a disparu après les matchs contre le Real. Moi, je trouve qu'il a été vraiment très médiocre. Or, le problème, si tu veux, c'est que il a fait tout à l'envers. Là, à ce niveau-là, il n'a pas été lucide du tout, parce que une année de Coupe du Monde, il vaut mieux faire comme Payet, c'est-à-dire être mauvais les deux tiers de la saison avant et mettre le turbo les deux tiers de les deux derniers mois, parce que c'est là-dessus plutôt que le sélectionneur va juger. Donc, moi, je trouve qu'il n'a pas été si bon que ça.
Ah bon, c'est ce qu'on a dit. On est d'accord, Laurent.
Voilà, il a été
sportivement, il ne mérite pas d'être là.
Attends, il a été simplement assez bon, mais pas suffisamment. Et puis, il y a aussi sa lucidité par rapport au groupe France, parce que il joue comme un sénateur là dans les deux derniers mois. Il est quand même remplaçant. Il a 6 sélections, donc il est donc sur la corde raide. Je veux dire, quand tu as 6 sélections et que tu es remplaçant, tu es toujours sur un fil. Tu peux toujours être poussé dehors assez facilement. Donc, je pense qu'il a totalement, là, il manque totalement de lucidité. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est aussi pour l'avenir, parce que s'il continue comme ça, alors il y a l'entourage qui doit pas l'aider beaucoup, mais il a l'air quand même assez buté sur ça, et il n'est pas lucide sur ses propres performances. C'est surtout ça qui est inquiétant. Voilà, moi je trouve que c'est le plus inquiétant, c'est son manque de lucidité en fait.
Et attends juste, Laurent,
ouais.
C'est qu'on va faire comme dans Moscato, redis-le, légitimité.
Légitimité.
Bonne soirée Laurent, merci.
Allez, bonne soirée.
Merci Laurent,
ciao.
Tiens, on va accueillir Benita, qui lui veut défendre Adrien Rabiot. Salut Benita, bienvenue à toi dans l'after.
Bonjour à tous.
Salut Benita.
Sympa comme prénom Benita, c'est quoi comme origine?
Romain?
Non, c'est un peu italien. Ouais.
Bah, j'allais dire albanais, tu vois. J'avais failli dire une connerie, tu vois.
Et du coup, pourquoi une connerie? Bonjour à tous. Alors, en
salut Benita.
Je voulais défendre Adrien Rabiot pour dans le sens où, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dans le football, on demande souvent aux joueurs d'être assez réfléchis sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils disent, d'être assez posés, etc. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est que peut-être que ça n'a pas été totalement irréfléchi, c'est-à-dire que lui, il a parlé avec son cœur, il s'est dit, ouais, je m'en fous des conséquences que ça peut engranger, j'ai des trucs à dire. Et je pense qu'Ali, il disait un petit peu ça, dans le sens où j'ai
et toi,
envie
ça
de parler.
Plaît.
Il a dit
je comprends. En fait, si c'est avec le cœur, c'est pas réfléchi, du coup, Benita.
Non, mais il a dit avec le fond.
Mais alors, attends, je vois exactement.
Mais les arguments sont pas forcément bons. C'est
les
pas
gars,
réfléchi.
C'est je vois là où il veut en venir, Benita. C'est l'image du footballeur un peu écorché vif qui fait pas de langue de bois. Attends, c'est lui ce qu'il vient de dire.
Mais non,
je te dis que c'est ce que Benita a dit.
Rabiot dit vraiment ce qu'il
pense.
Arrête de dire non,
Ali.
Oh, c'est ça.
Vas-y,
Ali. Je te dis que dans le football en général, tu ne dis pas vraiment ce que tu
as dit. Non, mais tu m'aurais laissé finir, t'aurais compris ce que je voulais dire.
Mais ça n'a rien à voir avec écorché vif, ça.
Si tu demandes à laisse-moi terminer ma phrase, tu vas comprendre. Vas-y. Je te disais que Benita, dans la teneur de ses propos, c'était de dire qu'il avait apprécié ce qu'Adrien Rabiot avait fait. Mmh. Et moi, je dis, bon oui, ça te donne, je pense comprendre que ça te donne l'image, de ce footballeur qui fait pas de langue de bois, un peu écorché vif, qui dit ce qu'il pense, qui a pas peur des conséquences. Mais le problème avec ça, c'est que pour être Cantona, c'est-à-dire dire ce qu'on pense et tout, faut être bon tout le temps sur le terrain. Et le problème d'Adrien Rabiot, c'est qu'il a pas été toujours bon sur le terrain jusqu'à présent.
Cantona, des fois, il a pas été aussi bon. Hein. Mais parce qu'il est comme ça, Cantona.
Ah,
il a toujours été
niveau,
comme
les deux
ça.
Niveaux.
Même à 17 ans, Cantona, il était comme ça.
Tu veux pas comprendre
il peut pas changer.
Ali, excuse-moi de te déranger. Là où je pensais que toi, on se rejoignait, c'est sur le fait que justement, toi, tu dis qu'on peut pas dire ce qu'on pense dans le football. Et c'est ça, justement, où je rejoins tes paroles, c'est que lui... Il s'est dit, mais j'ai envie de dire ce que je pense.
Oui, exact. C'est ce que je dis.
Que ça plaise ou que ça plaise pas. Et juste un dernier point. Quand on en fait, est-ce que quand t'as monsieur Neymar qui pleure parce qu'il veut pas aller au séance d'entraînement, ou quand t'as lui qui fait des siennes, ou quand t'as lui qui veut pas jouer des matchs et tout, c'est tout aussi irrespectueux dans pour un club. C'est tout
oui,
aussi.
Mais c'est pas comparable.
Et c'est plus hypocrite.
Non, c'est pas comparable. Ouais. Tu ne peux pas comparer Neymar, Messi, Ronaldo, et Rabiot.
Tu me rejoins sur ce que j'ai dit. Ce qui est la différence, c'est le niveau sur le terrain. Pour se permettre de l'ouvrir, il faut avoir un niveau qui soit quand même, tu vois.
Comportement, Ali. Est-ce que ça veut dire quoi que les grands joueurs, ils ont un passe droit? C'est ce que dit Benita.
C'est exactement ça. Voilà, mais c'est vrai, Benita, pourquoi chercher un rôle? Les grands joueurs ont un passe droit et ça a toujours été comme
et
ça.
Et c'est donc, qu'est-ce qui donne le passe droit? C'est le niveau de performance.
C'est pas parce que c'est comme ça que c'est bien.
J'ai jamais dit c'était,
t'as raison, Benita.
Benita, j'ai pas dit que c'était bien. Et quand je dis, moi, que, le joueur, s'il veut faire carrière, il ne peut pas dire tout. Il peut pas dire la vérité. Sinon, regarde, Rabiot, il va se faire griller progressivement.
On remercie Benita qui nous a appelé au 32-16. Salut Benita. Benita. Une petite info de Saber Desfarges. Sachez qu'Ousmane Dembélé est de retour, a repris l'entraînement collectif aujourd'hui avec l'équipe de France. Tiens, Benita,
jusqu'à
tu
la
raccroches
prochaine.
Pas. Ce week-end dans l'after, on vous offre ça. La biographie de Cristiano Ronaldo par Guillaume Balaguer. Voilà, c'est aux éditions Hugo Sport. Tu raccroches pas, Benita.
Communautariste.
Non, en fait, c'est parce que j'ai fait la post-face.
Ah, c'est encore pire. Il prend du blé là-dessus, il fait sa promo, le mec.
Bon, allez, nous, on se retrouve dans quelques instants avec Fred Hermel et Philippe Auclair parce que demain, il y a la finale de la Ligue des Champions. À tout de suite.
C'est malin, hein.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Avec Ali Benarbia, avec Jonathan McCarty, je vous rappelle l'information de cette soirée. Michel Platini, qui a été suspendu 4 ans par la FIFA, a été innocenté par le parquet suisse dans l'affaire du versement des 2 millions de francs suisses qui avait été versé par Sepp Blatter, qui est alors président de la FIFA. C'est une information du Monde. Michel Platini qui a réagi sur lemonde.fr. Finalement, dit-il, cela faisait longtemps que je me bats sans aucun espoir contre des gens qui veulent m'éliminer politiquement. Il parle d'un complot et il écarte pas de se présenter aux élections de la FIFA qui auront lieu l'année prochaine. Ce sera en juin prochain, il y aura un congrès de la FIFA en juin 2019. On vous rappelle que la suspension de la FIFA tient toujours, puisque elle s'appuie, cette suspension, sur le propre code éthique et non sur la justice suisse.
Mais ce qui serait bien là, c'est que toute la France le supporte, à Michel Platini.
Ça va pas changer grand-chose.
C'est les pays membres, Ali. C'est les pays qui ont un droit de vote. C'est eux qui doivent le soutenir.
Non, mais messieurs, la France.
Finale de Ligue des Champions à Kiev entre Liverpool et le Real Madrid. Fred Hermel et Philippe Auclair sont avec nous. Salut les gars.
Hola.
Bonsoir.
Salut.
C'est demain. C'est demain le grand jour.
H-22.
Ah, tu comptes bien en
23.
Plus.
Ouais. Non, 21. H-21,
pardon. Tu comptes mal, au fait.
Non, parce que 19h45, 19h20...
Ah, parce qu'il a le décalage horaire, Philippe.
Oui, j'ai le décalage horaire, c'est pour ça.
C'est vrai. Alors, messieurs, demain, il y a la finale de la Ligue des Champions. Liverpool, on a Philippe Auclair côté Angleterre. Fred Hermel, côté Espagne.
Dans le coin rouge.
Voilà, exactement. Non,
Fred Hermel est toujours là.
Alors, on va commencer par ton avis tranché, Philippe, qui concerne donc Liverpool. Et pour toi, Liverpool n'aura aucun complexe demain.
Ah non, absolument aucun complexe. Et par contre, c'est pas un pronostic, hein. Ça c'est pas du tout. Hein. Mais au niveau de l'état psychologique, je dirais de l'équipe de Jurgen Klopp, ça pourrait difficilement être plus décontracté. Et ça, c'est franchement, ils sont maintenant évidemment à Kiev, mais ils ont choisi de passer la préparation à ces finales de Ligue des Champions en dehors d'Angleterre. Et en fait, chez Fred. Enfin bon. Dans le pays,
qui est pas l'endroit le plus calme d'Espagne quand même, hein.
Oui, mais à Malaga ou à Marbella?
Marbella.
Ah ouais, c'est encore mieux alors.
Ah ouais,
c'est ça.
Tu m'étonnes. J'aurais dû aller faire
l'interview. Mais vas-y, hein. Non, il est un petit peu tard. Mais en tout cas, ça leur a permis un petit peu d'échapper à la cocotte minute qui est devenue Liverpool. En l'occurrence, la ville ne vit plus que pour ça.
C'est pas Philippe. Il y a aussi l'UFC Liverpool dimanche.
Ah oui, ça c'est ta spécialité, pas la mienne.
Steven Gerrard se reborde la cale,
c'est
d'ailleurs.
C'est sa spécialité qu'à lui, vas-y Philippe.
Oui. Non, mais quand tu vois, j'avais des amis qui ont suivi Liverpool qui était à Marbella, et dans le camp de Liverpooliens, c'est le calme, la relaxation, un état d'esprit très sain. Je pense pas qu'ils se fassent franchement des illusions sur ce qui les attend. Par contre, ce que je sais également, c'est qu'ils ne se font absolument aucune illusion sur le plan de jeu que va leur donner Jurgen Klopp, qui sera exactement, les gars, celui qu'ils ont eu contre toutes les autres équipes contre lesquelles ils ont joué. Que ce soit en Angleterre ou en Europe, absolument aucun complexe. Ne vous attendez absolument pas à une équipe de Liverpool qui se dise, oulala, attention, contre Benzema, contre Ronaldo, Kroos, Modric, voire Gareth Bale, on va faire attention, on va resserrer un petit peu les boulons. Non, il va jouer exactement de la même façon, le 4-3-3. Ouais. Les joueurs qui sont concernés sont tous très relax.
On la voit sur
VFM
Sport, la compo probable.
Oui, bah de toute façon, tu peux. Ils ont pas vraiment le choix. La seule interrogation, peut-être, c'est le fait que Emre Can soit présent. Du coup, il y a des gens qui se sont dit, est-ce que on pourrait avoir une espèce de der pour Emre Can, puisque bon, il va partir en Italie a priori. Il a été blessé, longtemps absent du groupe. Est-ce que par hasard, il pourrait intervenir? Mais bon, sinon, on devrait avoir l'équipe habituelle avec le trio heureusement Mané, Firmino, Salah qui sera là, avec Wijnaldum, Henderson, James Milner, Trent Alexander-Arnold, Robertson, le grand Dejan Lovren, Van Dijk et puis Loris Karius. Donc une équipe absolument sans surprise, mais l'état d'esprit est franchement plutôt intéressant, dans la mesure où il y a aucun complexe de la part de l'entraîneur, de la part des joueurs. L'ambiance est excellente. Ça ne veut pas dire qu'ils soient favoris quoi que ce soit. J'en sais absolument rien, mais ils se présentent dans les meilleures dispositions psychologiques en tout cas.
C'est très dur. Bien. C'est dur de se faire un avis sur le match en fait. Parce que franchement, j'ai l'impression que tout va dépendre de la composition du Real. Si le Real,
est-ce qu'on a une idée justement sur cette composition?
Alors justement, avant de parler du Real, Philippe Auclair vient de nous dire que Liverpool n'aura aucun complexe demain. Oui, mais voilà, pour Fred Hermel, eh bien, ce sera facile pour le Real demain. C'est ça ton avis ce soir, Fred?
Bah oui, parce que je pense que le Real Madrid, le Real va gagner facilement cette rencontre pour une raison très simple, c'est que jamais dans l'histoire de la Coupe d'Europe, le Real Madrid n'est arrivé en aussi bonne forme. À ce moment, voilà, à ce rendez-vous, c'est quelque chose d'incroyable. Les 24 joueurs qui composent l'effectif du Real Madrid sont tous dans une forme exceptionnelle. Zéro bobo, zéro blessure, même pas un petit début de contracture.
Pas des problèmes avec maman à la maison ?
Non, rien du tout. Tout va bien. Zinedine Zidane est même assez halluciné du niveau des entraînements à ce moment de la saison, ce qui montre que les joueurs, bon. Parlons pas d'implication, on sait comment ça se passe au Real Madrid, mais que en plus ils ont beaucoup de peps physique. C'est dur à trouver parce que je me souviens de la finale de 2014 à Lisbonne, décima, Bale joue blessé, Cristiano Ronaldo joue blessé, Benzema joue blessé, Marcelo entre en deuxième période parce qu'il revient de blessure, Xabi Alonso était suspendu, Pepe blessé, il savait pas trop finalement. Il dit à Ancelotti, vaut mieux, il y a un risque que je me reblesse, donc il met Varane. Alors que là, ils sont tous dans une forme physique exceptionnelle. Et ça, il faut quand même saluer le travail qui ont été fait par les médecins cette saison, par Zidane, sa méthode, par Pintus, le préparateur physique. Zidane, sa méthode où il a fait beaucoup de turnover. Donc, moi, je suis très, très optimiste pour le Real Madrid parce que quand vous avez un Zidane qui, à la sortie de l'entraînement, me dit à moi qu'il est épaté par la qualité des entraînements et l'impact physique qu'ils sont capables de mettre, eh ben, je pense que le Real va s'imposer parce qu'on sait très bien que joueur par joueur, le Real est meilleur et qu'il faudrait que le Real ne soit pas à son niveau pour que Liverpool puisse être champion d'Europe demain. Sauf que là, en tout cas, physiquement, ils sont à leur niveau et c'est la meilleure nouvelle pour une équipe avec ce talent.
Mais peut-être... Moi j'ai vu une action de jeu de l'entraînement du Real avec un Zizou qui fait une transversale et Modric qui fait
tu l'as vu celle-là.
Zizou il fait ça, il fait des entraînements tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas le mec qui a resté dans son bureau et avoir des assistants.
Le mec, hein. Il a c'est dingue.
Et Philippe, je sais pas si t'es d'accord avec ce que je vais te dire, mais je pense que si le Real décide de faire le jeu, on peut avoir une finale palpitante et peut avoir du suspense entre les deux équipes. En revanche, si le Real joue plus bas et fait preuve du vice et du réalisme qui est le leur, je pense que Liverpool a aucune chance.
Je suis un petit peu d'accord avec toi dans la mesure où si jamais tu vois le Real qui s'est un petit peu laissé aller, je dirais contre le PSG, contre le Bayern par moment, Liverpool peut faire très mal. Et je pense que le Real en étant un petit peu plus négatif, c'est la meilleure façon d'être positif, si tu vois ce que je veux dire. Parce que Liverpool n'est pas une équipe qui aime faire le jeu, construire le jeu dans les attaques placées, tout genre de choses. C'est en contre qui sont absolument mais intenables. Et leur plus grande force à eux, c'est justement sa capacité d'exploiter les moments forts. Ils sont toujours dans les matchs. Ouais. Et ils vont te marquer ce que tu as vu contre la Roma, ce que tu as vu contre Manchester City, ce que tu as vu contre tout le monde en fait cette saison. Ils vont avoir 15-20 minutes. C'est incroyable, 15-20 minutes, ils vont se créer 4 occasions, ils vont en mettre 3 au fond. Et les jeunes sont complètement groggy. Mais par contre, derrière, ils peuvent en prendre 4 aussi. Hein, ça, je te le garantis.
La question physique, on l'a vu contre la Roma demain. La question physique est essentielle demain. Voilà, parce que, bien entendu, au Real, ils s'attendent que dans les premières minutes, Liverpool va essayer de mettre un impact, etc. Et je sais que dans les dossiers techniques qu'a reçu Zidane, on trouve que le milieu de terrain de Liverpool met des coups aussi. Hein, il y aura un vrai défi physique.
Ah, bah oui.
Ils
oui.
s'attendent à ça. Ils s'attendent vraiment à ça. Bon, Casemiro, il sait le faire aussi, hein.
Modric,
il est fantastique. Ce machin, là, qu'est-ce qu'il est costaud. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup à voir, entre autres, c'est le fait que tu auras, a priori, une équipe de Liverpool qui va aller essayer de presser très très haut. Et ça, c'est pas une chose, je pense, à laquelle le Real Madrid a nécessairement été habitué. C'est pas tellement les équipes espagnoles ne le font pas de cette façon-là comme le font les équipes allemandes ou les équipes anglaises.
Ouais, et surtout Bayern en demi-finale quand même.
Oui, mais même le Bayern ne fait pas le même style.
Oui, ce que je veux dire, c'est que regardez les deux derniers matchs à domicile en Ligue des Champions qui sont le quart de finale retour contre la Juve. La Juve attaque d'entrée, fait un pressing très haut.
Pas le même style non plus.
Le Real s'ouvre. Le Bayern fait la même chose parce qu'ils avaient perdu tous les deux à l'aller. Donc ils le font comme ça.
C'est pas comparable.
Moi, je pense que le Real, ils ont quand même joué tous les matchs de Ligue des Champions de ces 3 dernières saisons. Donc ils ont goûté tous les styles en Europe et tous les styles en Espagne. Donc la force du Real de Zidane, c'est son adaptabilité. Alors on peut peut-être faire si Philippe a l'air convaincu de façon du 11 de Liverpool, il y a quand même un petit doute côté Real Madrid. C'est-à-dire que il joue en 4-4-4, en 4-4-2 avec un million losange avec Isco
ou à plat
à plat
avec deux ailiers.
Bah oui, mais il va pas priver Kroos, Modric ou Casemiro.
Ouais.
Voilà, parce que si tu es avec des ailiers, ça veut dire
Asensio
ou Lucas Vazquez, et donc c'est pas possible. Toute l'équipe, elle paraît claire, c'est-à-dire Keylor Navas dans les buts, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos. Devant, moi je pense qu'il y a une chance qu'il y ait la BBC. C'est-à-dire en 4-3-3 avec la BBC, parce que Bale est dans un état fabuleux, absolument. Bale va partir. Bale veut montrer qu'il a pas forcément été reconnu à sa juste de valeur. Il y a eu beaucoup de critiques. Ouais. Il est 100% responsable de son non-réussite.
C'est moins bon pour Liverpool, ça, du coup.
Messieurs, mais Bale, à un moment ou à un autre, va jouer parce qu'il est il est parfait. Il a mis 10 buts lors des 12 dernières rencontres. Mais... Et en plus, à l'entraînement, il se défonce. Et donc, sur le 11, c'est-à-dire, voilà, il y a 3 types pour 2 places.
Très bien.
Benzema, Isco, Bale, et il y en a 2 qui seront choisis.
Voilà. C'est moins bon pour Liverpool
que
si c'est Bale.
3 finales de Ligue des Champions sur 15. Hein,
c'est énorme. Mais je mettrais un bémol, c'est-à-dire que Fred avait bien dit que ces dernières années, l'équipe du Real était pas trop bien, il y avait des blessés. Mais cette année, ils sont au top, et ça peut changer de camp.
Messieurs, on vous retrouve demain, bien entendu. Demain, finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid.
Ouais. Ce sera dès demain matin.
Dès demain matin?
Ah oui, 10h30. Les grandes gueules, les paris.
Oui, je suis avec eux.
C'est vrai.
Eh ben oui, bah écoute.
Et pas demain matin, les mecs. Je vous écouterai dans la voiture en venant
travailler. Okay.
Merci, messieurs. Bonne nuit.
Merci, Nicolas.
Merci, Ali.
Merci,
merci à toutes les équipes techniques.
Quelle légitimité de ce présentateur.
Gros bisous, à demain.
Il fait des cœurs. Quelle intimité.
RMC, le super football show, l'After Foot.